ma foi, j'y crois. Ma foi, j'y crois.
Ma foi, j'y crois.
Une émission de Benoît Petit.
Ce soir, avec Jacques Robaris. Bonsoir Jacques.
Bonsoir Benoît.
Vous êtes militant ouvrier de la CGT, de la CO et aussi de la FPMO, c'est-à-dire la formation permanente de mission ouvrière, c'est plutôt la Bible, et également membre du GAIC.
Oui.
Merci de venir parler ce soir dans notre émission « Ma foi, j'y crois », venir parler de votre vie, de témoigner de vos engagements. Alors, vous étiez petit garçon dans le Lot et vous avez bien commencé puisque vous avez eu déjà deux bons points dans l'école primaire.
Exact, oui, oui, oui. Le premier bon point, c'était la sainteté. Alors, ce n'est pas plus grand qu'un timbre-poste. La sainteté, c'est la santé et la joie de l'âme. J'ai trouvé ça formidable, mais je l'ai perdu, ce bon point.
Non, vous avez gardé la joie de l'âme et l'engagement.
Par contre, l'autre, c'était « Dépose tes soucis, le Seigneur prend soin de toi ». Celui-là, je l'ai toujours, parce que des soucis, il y en a toujours.
Voilà, et donc vous êtes profondément convaincu que Dieu nous donne la force pour vivre et pour vivre surtout avec les autres. C'est ça que l'on voit dans votre travail, à la fois à travers votre profession, mais aussi chaque fois à travers la solidarité et vos engagements syndicaux et politiques.
Tout à fait.
Alors, après, peut-être pas de grandes études, parce que vous avez aussi reçu une gifle, pas seulement des bons points, dans l'école, et ça marque.
Bêtement, la gifle. On est à l'école encore primaire, mais on écrit sur des ardoises, donc
à
on a une craie.
Oui.
Et alors, il faut effacer. Et alors, mon voisin de gauche tend l'ardoise à mon voisin de droite pour qu'il crache dessus. Et comme l'ardoise m'est passée devant, j'ai craché. Il m'a cafardé. La maîtresse, une claque, tu ne peux pas t'imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer.
Le sens de la justice.
Ouais, bon.
Le sens aussi de la confiance dans la vie. Et c'est ce qui va vous marquer et qui va vous poursuivre juste à travers. Vous n'avez pas le bac, vos parents se séparent, mais en même temps, vous continuez à réfléchir dans votre métier comme petit commerçant.
Voilà, petit commerçant ambulant. Mes parents étaient commerçants ambulants. Mon papa faisait les foires, ma maman faisait les marchés. Comme ils sont décédés très jeunes, à 45 ans et à 50 ans, bon, moi, sans métier, sans formation, donc j'ai pris la voiture, la suite de ma mère. Donc j'avais une estafette, deux ou trois parapluies, et je partais sur les marchés vendre des tabliers, des pantalons pour enfants. Voilà, voilà.
Florence, Caraman,
oui,
et
oui,
apporter un service
utile
à ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
C'est vrai, parce qu'à la campagne, à l'époque, il n'y avait pas de grande surface, c'était formidable. Donc, nous, on arrivait sur les marchés, c'était vraiment un lieu de contact entre les paysans, entre les marchands, c'était pas mal.
Mais vous étiez aussi passé par la ville, par le lycée Fermat, avec des solidarités, avec des copains.
C'est vrai, c'est vrai. Et c'est là que j'ai appris la JEC.
Jeunesse étudiante
chrétienne.
Chrétienne.
Voilà,
chrétienne.
Voilà, voilà.
Oui, oui.
Et donc, on réfléchissait sur ce que l'on vivait, aussi bien sur la culture que sur les conditions d'études. Et ça m'est resté. Ce qui fait que, comme je n'avais pas de métier, je faisais marchand ambulant, j'ai demandé au vicaire de la Dalbade, mais est-ce qu'il n'y a pas des moyens de se rencontrer entre jeunes qui travaillent, un peu comme à la GEC. Et bien voilà, et voilà. C'est comme ça qu'a commencé la JOC. Oui, tout à fait, tout à fait. Avec François André, avec l'abbé Passama, à la Dalbade.
Oui, mais à l'époque, peut-être il faut le dire, ça ne se sait pas assez, il y avait aussi la JOM.
Alors, quand on faisait des rencontres régionales, effectivement, les équipes de Mazamet, où il y avait beaucoup de travailleurs immigrés qui travaillaient dans la confection, dans le textile, dans la mégisserie, effectivement, il y avait beaucoup de jeunes maghrébins. Et les aumôniers qui accueillaient la JOC accueillaient aussi des musulmans. Et ils disaient, c'est la JOM, c'est la jeunesse ouvrière musulmane.
Une solidarité de classe.
Oui.
Qui va vous... que vous allez garder lorsque vous allez travailler dans une grande surface comme magasinier.
Voilà, voilà. Ça s'appelait à l'époque, ça portait un nom spécial. ELS, employé libre-service, c'est l'équivalent de OS.
avec déjà des tensions de classe et des tensions, parfois même des conflits, et d'où l'intérêt de faire une mutuelle.
Ah oui, déjà, ah, ça c'était chouette. La CGT de là-bas, ils avaient monté la mutuelle, dans ce qui veut dire quand on était malade, on pouvait, grâce à cette mutuelle, avoir des remboursements meilleurs. Et tout le monde venait à la CGT. Au bout d'un moment, le patron a flairé le truc. Ils se sont dit, allez, allez. Donc, ils ont monté eux-mêmes leur mutuelle en cassant les prix. C'est-à-dire, nous, peut-être, on cotisait à un certain prix. Le patron a favorisé sa mutuelle. Donc, ils ont fait le moitié prix. Donc, peu à peu, les gens sont partis. On a perdu quelques militants, quoi. Voilà.
Oui, mais en même temps, y a une conscience de classe pour dire que sa place dans la société, c'est à travers le travail, à travers une profession, qu'on a une dignité.
Exactement. Et on faisait respecter nos droits, notamment la convention collective. La convention collective de cette grande surface n'était pas trop, trop mauvaise, puisque tous les jours fériés payés chômaient comme le 1er mai. C'était une avancée. Le jour de repos, le dimanche.
Vous distribuiez des tracts, oui. Et en même temps
et on s'est aperçu, la première chose à faire, c'était de regarder la convention collective. Et en regardant la convention collective, on s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de tâches très précises. Par exemple, le gestionnaire pouvait faire des comptages, des inventaires, des choses comme ça. Et on s'apercevait que les employés libre-service, bien souvent, faisaient des comptages. Alors on s'est regardé, on s'est dit, eh bien, on va demander à être gestionnaire. Et comme ça ne marchait pas, il dit, eh bien, on va arrêter les comptages. Effectivement, c'était la première action dans laquelle je me suis trouvé. Et au bout d'un moment, ils ont nommé gestionnaire un certain nombre de LS qui faisaient les comptages.
D'où le choix de la musique que vous nous avez apportée. Voilà, voilà. Ce n'est pas un chant nostalgique, mais c'est un chant qui rappelle et qui évoque des conflits qui sont encore actuels.
Il est revenu le temps du muguet, comme un vieil ami retrouvé. Il est revenu flâner le long des quais jusqu'au banc où je t'attendais, et j'ai vu refleurir l'éclat de ton sourire, aujourd'hui plus beau que jamais. Le temps du muguet ne dure jamais plus longtemps que le mois de mai. Quand tous ces bouquets déjà seront fanés, pour nous deux, rien n'aura changé. Aussi belle qu'avant, notre chanson d'amour chantera comme au premier jour. Il s'en est allé le temps du muguet, comme un vieil ami fatigué. Pour toute une année, pour se faire oublier, en partant, il nous a laissé un peu de son printemps, un peu de ses 20 ans. Pour s'aimer longtemps, longtemps, longtemps.
Ma foi, j'y crois, avec Benoît Petit.
Ce soir, avec Jacques Rovaris, vous êtes militant CGT, vous êtes à l'ACO et à la formation permanente de mission ouvrière par rapport à la Bible, et on verra tout à l'heure au GAIC. Alors, pourquoi le 1er mai? Vous me dites, c'est la personne qui m'inspire, c'est Bernadette Soubirous.
Ouais, Bernadette Soubirous, oui.
C'est un petit peu contradictoire, non? Dites-nous.
Oui, oui et non, sauf que Bernadette Soubirous, c'est l'hiver, c'est 1858. Donc c'est là la naissance des sociétés anonymes, c'est la naissance du train à vapeur, des machines à vapeur, des bateaux à vapeur. C'est là où les banques d'affaires fleurissent, c'est là où le profit commence à exploser. Et donc c'est vraiment le début de l'exploitation, notamment, travail des enfants, hommes, femmes, enfants, des journées jusqu'à 15 heures par jour, 1858, jusqu'à 15 heures par jour. Les patrons s'en glorifient, disent, oui, mais au moins ils travaillent en famille. Et un patron du textile qui disait, mais regardez les filles en faisant le travail avec les trames, mais ça développe la poitrine. Donc ce sont des bons patrons, ils sont très contents, ils exploitent les gens.
Et Bernadette, qui est pauvre, provoque, ou en tout cas réveille en partie l'Église.
À mon avis, oui, parce que elle est... Quand il y a eu la première apparition, où c'est qu'elle est ? Elle est avec sa sœur et Toinette. Elles sont allées chercher du bois et des os parce qu'ils crèvent la faim. C'est la famine. Donc, avec du bois et des os, ils vont le vendre à la chiffonnière. La chiffonnière va leur donner 4 sous. Ils vont pouvoir acheter un peu de pain pour la famille. C'est vraiment l'exploitation...
Vous en restez sans voix. Et à côté, vous me disiez, en contresens, ou à l'opposé, on a le Tédéum à Paris.
Exactement. L'archevêque qui fait le Tédéum pour célébrer le sacre de l'empereur. Mais qu'est-ce que c'est ? Et le pape qui va rejoindre la Sainte Alliance pour lutter contre le péril rouge. Mais leur plat. Alors justement, Bernadette est venue en quelque sorte sortir l'Église de cet état de complicité entre le sabre et le... Comment on appelle ça, c'est Victor Hugo.
Le goupillon.
Le goupillon et le sabre goupillon. Pour vraiment le remettre là où elle doit être, c'est-à-dire au niveau des plus pauvres. C'est elle qui est chargée par Marie d'aller dire au prêtre, venez voir où c'est qu'on ramasse du bois. Venez voir ici, construisez la chapelle ici, venez en procession. C'est une militante vraiment extraordinaire.
On sent votre indignation devant certaines injustices, oui, comme oui. Lorsque vous travaillez dans le cadre du Sidunati contre les impôts, contre la patente, ou même plus tard, récemment, en 68-70, où vous dites que la lutte des classes n'est pas terminée. Le communisme existe déjà. Et alors, une autre personne qui vous inspire, c'est l'économiste Bernard Friot, qui sera invité à cette antenne. Deux choses dans les réseaux salariaux. Cette solidarité de classe, elle passe... Le communisme est déjà là. Ce n'est pas en rêve.
Exactement. Statut des fonctionnaires. Un salaire à vie. Mais voilà un vrai statut de travail décent et qui est à étendre à tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit... Les retraités, ils ont un salaire à vie. Les fonctionnaires, ils ont un salaire à vie. Pourquoi pas le privé ? C'est extraordinaire. Donc, ils se basent sur ce qui existe déjà, le salaire à vie des retraités et des fonctionnaires, pour l'étendre au privé. Ça, c'est vraiment le nec plus ultra. Voilà.
Deuxième point, la sécurité sociale existe déjà.
La sécurité sociale, le régime général qui a été mis en place par Ambroise Croizat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on cotise en fonction de nos moyens, mais on va être soigné en fonction des besoins. On n'a pas besoin d'avoir une carte bleue bien chargée comme chez Trump. Du moment que tu as cotisé, tu auras les mêmes soins. Le prince comme le pauvre, vous allez avoir les mêmes soins. C'est prodigieux, cette sécurité sociale. Mais je vois qu'on l'attaque de toutes parts. On enlève des cotisations sociales. On dit qu'on est en déficit, mais c'est que du bluff. C'est que une attaque mensongère. C'est ignoble.
Des échanges en valeur économique. Ce n'est pas la taxe pour la valeur ajoutée.
Ah oui,
ce
oui.
n'est pas une valeur d'échange ou valeur oui. d'usage. Oui. C'est une valeur économique qui est actuellement déjà un résultat du travail des personnes, quel que soit leur point de retraite.
Et est-ce qu'on peut signaler en même temps le bouquin Facteur 12 de Gaëlle Giraud et Cécile Renoir, une religieuse, Assomption, et Gaëlle Giraud, je crois, un jésuite, je crois. Qu'est-ce qu'ils disent, Facteur 12 ? Ils disent que justement, chez les fonctionnaires, l'écart du plus petit au plus grand salaire, c'est de 1 à 12 avec les primes comprises. Mais dans le privé, il n'y a pas d'écart. Enfin, non, il n'y a pas de limite. Si on prend les fonds de pension, ça peut aller de 1 à 500, à 1000, ou même à 2000.
Sans compter les parachutes dorés.
C'est incroyable. Donc, ce facteur 12 qui caractérise l'écart chez les fonctionnaires, on devrait l'étendre au privé.
Mais alors, cette indignation, vous en faites le lien avec la lecture de la Bible, entre autres dans la FPMO.
Oui. Alors, formation permanente, mission ouvrière. Alors, c'est trick.
C'est comme la JOC qui faisait une relecture de vie à travers l'Évangile.
C'est ça, mais c'est élargi parce qu'il y a 5 experts, donc il y a 5 parties. Il y a ceux qui veulent faire de la sociologie, ceux qui veulent faire de la théologie, de la philosophie. Moi, je fais de la Bible. Donc, on se retrouve une fois tous les mois et demi. Et surtout, une fois par an, que ce soit à Lourdes ou à Bayonne, on se retrouve tous ensemble. Donc, chaque expert de chaque discipline... parle de son propre du sujet qu'on a pris tous ensemble, donc c'est enrichissant. Voilà, c'est très enrichissant.
Et en plus, ça booste, ça permet de continuer son travail de militant en restant dans des sentiments de paix, non pas d'animosité.
Exactement.
Ou de haine.
Oui.
Alors cette solidarité, vous la vivez aussi à travers l'Organisation internationale du travail.
Oui. 1918, le lendemain de la Première Guerre mondiale, Organisation internationale du travail, c'est-à-dire des gouvernements, des patrons et des employés, et des syndicats plutôt. Patrons, gouvernements, syndicats. C'est très original au sein de l'ONU. C'est un tripartisme. Et qu'est-ce qu'ils disent après la guerre? Ils disent, si on veut une paix durable, ça passe par la justice sociale. Le travail, ce n'est pas une marchandise. Et... ça n'a pas suffi. En 1944-1945, pareil, encore la guerre. Et alors en 1945, ça a été voté à l'unanimité sur les mêmes principes, c'est-à-dire, franchement, si on veut la paix, il faut absolument la justice sociale. Le travail, ce n'est pas une marchandise. Et alors, en 1999, ils ont défini le travail décent, c'est-à-dire celui qui respecte l'homme, la femme. Et c'est devenu une journée mondiale du travail décent, le 5 ou 6 décembre, je crois. Non, je ne m'appelle plus. Et c'est devenu une journée mondiale du travail décent. Ça a été fait, ça a été consacré par la CIS, Confédération internationale des syndicats. Qui résulte de la fusion de deux syndicats, le CMET qui était plutôt chrétien et le CISL qui était plutôt FO. Donc, et Bernard Thibault nous disait, mais c'est bizarre, au plan national, c'est la division syndicale. On a une douzaine de syndicats en France. C'est vraiment original d'avoir ça. Par contre, au niveau international, il n'y a que deux grandes... Ça, c'est... Au moins, au niveau international, on arrive à s'entendre.
Et à essayer d'avoir non pas une utopie dans l'au-delà, aussi une solidarité déjà maintenant. Alors, on a aussi... une solidarité au sein du groupe d'amitié islamo-chrétien, puisque en fait chaque fois que il y a des rencontres sur Toulouse chaque année. N'a pas pu cette année en 2020 avoir cette rencontre. Le thème c'était l'ouverture avec la nature et la responsabilité des uns et des autres par rapport à notre terre commune. Tout à l'heure, nous évoquions l'Organisation internationale du travail, mais très proche de la sensibilité de François, tous frères. Mmh. Et là, cette amitié dans les quartiers, elle est vécue à travers le groupe d'amitié islamo-chrétien.
Oui,
tout à fait. Et c'est vous qui faites les fresques chaque année lorsque nous avons... Alors, c'était Moïse, c'était Myriam, Marie, c'était sans naïveté. Sans vouloir faire des contresens théologiques, mais c'est le fait de pouvoir vivre avec d'autres dans les quartiers et d'échanger sur nos valeurs et nos convictions.
Voilà ce que l'on vit dans le quotidien. Oui, alors comme anecdote, c'est un peu saignant, hein, parce que c'est à propos des deux jeunes, Ziad et Bouana, qui avaient été poursuivis par la police, 14 ans, 15 ans, dans le nord de la France, là, et ils se sont électrocutés dans un poste d'électrification. Et À la suite de ça, il y a une centaine de villes qui ont été en flammes. Et à Toulouse, on a été très marqué. En 2005, le car qui brûle, les maisons, des voitures qui brûlent dans des écoles, ça a été vraiment atroce. Et justement, on a essayé d'aller vers eux pour dire « Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que vous ressentez ?» Et ils nous ont dit au bout d'un moment « Écoutez, pas de blablabla, du boulot, on traverse le parking de casino, on a les plus belles entreprises et nous on ne peut pas y rentrer, il y en a qui font 50 km, 80 km, ils viennent travailler ici, nous on ne peut pas, donc il y a de la discrimination. » Effectivement, le défenseur des droits, Jacques Toubon, qui a terminé son mandat, le dit « Les discriminations n'ont pas cessé, elles ont même accru, que ce soit pour les handicapés ou que ce soit par rapport à l'origine, supposée ou réelle, elles ont augmenté. Donc les jeunes sont découragés, quoi. Voilà. Ils sont rejetés.
Cette solidarité, vous la vivez aussi dans votre paroisse, qui est Saint-Paul-des-Nations,
oui, oui,
très colorée.
Voilà, très colorée, oui.
Où chacun vient avec son passé, avec ses espérances.
Oui, oui, oui.
Et
oui.
Où il y a des échanges.
Voilà, on essaie de partager. Maintenant, on a changé de curé. Et donc, on voudrait faire des fraternités. Donc, c'est en préparation. Donc, voilà. On voudrait faire des petits groupes pour partager sur ce que l'on vit, ce que l'on croit. Voilà, voilà.
D'ailleurs, vous avez aussi une certaine responsabilité lorsqu'il faut faire préparer le repas avec la mission ouvrière, entre autres à Noël. Mais ça, c'est pas toujours... Parfois, c'est un peu aléatoire, comme en ces temps incertains.
Et voilà, voilà.
Donc, le partage du goûter de Noël.
Donc, cette année, le 13 décembre, c'était prévu à la Fourguette. Bon, on ne peut pas le tenir. Et on avait commencé à contacter des témoins. Ça avait été le Secours catholique, c'était Welcome, c'était le CCFED. Mais bon, cette année, c'est cuit, je crois.
Mais d'autres manifestations n'ont pas pu avoir lieu. Vous avez mis, nous allons voir sur le site, l'arbre de la paix qui a été planté lorsqu'il y a eu la marche au-delà des convictions. Osons la rencontre pour mieux se connaître. Nous avons interviewé Michel Rouffet, qui était un des organisateurs de la marche, et où dans Toulouse, c'est la troisième année, hein, on marchait, quelles que soient nos convictions, entre les non-croyants ou les bouddhistes ou des personnes de différentes obédiences. D'ailleurs, vous participez en tant qu'un des membres de la mission ouvrière au CCFD. Comité
oui,
contre
oui.
La faim. Donc il y a une sorte de fédération entre les mouvements.
Voilà, voilà. On est 26 mouvements au sein du CCFED. Et au CCFED, justement, quand il y a eu le Rana Plaza qui s'est écroulé, 1000 ouvrières du Bangladesh qui ont péri dans cette usine qui était toute vétuste, elles avaient signalé quelques jours auparavant qu'il y avait des fissures. Travailler, il n'y a pas de raison de s'arrêter. Et voilà, il y a eu un écroulement. Donc, avec le CCFD, on est allé distribuer des tracts devant Auchan, puisque Auchan faisait fabriquer pas mal de textiles au Bangladesh. Et alors là, ce qu'on nous a dit, voilà... Nous, on travaille avec une entreprise qui est raisonnable, qui est dans les normes, mais après ce qu'elle fait, nous, ça ne nous regarde pas. Et depuis 2017, justement, ça le regarde. Avec la responsabilité sociale des entreprises, il y a un droit de vigilance et ils seront obligés de regarder.
C'est pour ça aussi que, pour terminer, vous parleriez encore pendant longtemps, mais vous avez apporté une prière. Et je pense que nous allons mettre toutes ces questions politiques, syndicales, de solidarité sous le regard du Seigneur, en tout cas sous le regard d'un autre. Et c'est vous qui parlez. Christ.
Christ n'a pas de main, il n'a que nos mains pour faire son travail aujourd'hui.
Christ n'a pas de pied, il n'a que nos pieds pour conduire les hommes sur son chemin.
Christ n'a pas de lèvres, il n'a que nos lèvres pour parler de lui aux hommes.
Christ n'a pas d'aide, il n'a que notre aide pour mettre les hommes à ses côtés.
Nous sommes la seule Bible que le public lit encore.
Nous sommes le dernier message de Dieu, écrit en actes et en paroles. C'est un anonyme allemand du 14e siècle qui nous transmet cette prière qui s'adresse à un autre, mais qui s'adresse à tous les hommes. Merci Jacques et merci aussi à Christophe
c'est moi qui
pour l'enregistrement.
Et c'est moi qui vous remercie.